Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er octobre 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au Burkina Faso, le président Kafando souligne que le pilonnage du camp du RSP à Ouagadougou n'a fait aucun mort.
Au moins 1600 morts depuis juin, le bilan des attaques de Boko Haram en Afrique de l'Ouest et du Centre, selon Amnesty International.
Human Rights Watch demande à la RDC de réformer de toute urgence son système judiciaire afin d'assurer des procès équitables pour les crimes graves.
La Russie et les États-Unis d'accord pour des discussions entre militaires pour éviter des incidents suite aux premières frappes aériennes russes en Syrie.
Dans le nord de l'Afghanistan, l'armée a repris ce matin une bonne partie de Kunduz aux mains des talibans depuis lundi.
Et ne manquez pas notre rubrique « La Minute Éco » ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, après avoir ordonné l'assaut qui a permis de chasser le RSP de son camp de Nabakom 2, le président de la transition y a fait un tour pour encourager les soldats loyalistes. Michel Kafando a tenu à souligner que le pilonnage du camp Nabakom 2 n'a pas fait de mort, ni chez les éléments du RSP, ni chez les loyalistes. Reportage de notre correspondant sur place, Zoumana Onogo.
Sur place, les constats ne donnent pas lieu à un champ de bataille de désolation. Seulement des portails défoncés par-ci, des guérites calcinées par-là. Pas de cadavres qui jonchent la place. Le président de la transition, Michel Kafando, explique cela par le professionnalisme de l'armée burkinabé.
Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant du miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis.
Le Burkina Faso revient de loin et cette crise RSP porte en elle le nouveau Burkina, selon les mots du président Michel Kafando.
L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Une page de notre histoire est ainsi tournée. Le nouveau Burkina est en marche. Restons mobilisés à l'appel de la nation pour la poursuite du processus électoral dont nous fixerons très bientôt les nouvelles échéances en concertation bien sûr avec les partis signataires de la charte.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
En République centrafricaine, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, est rentrée mercredi à Bangui. Les barricades érigées depuis le week-end dernier par des manifestants ont été levées hier à Bangui sur plusieurs axes routiers, signe tangible d'une diminution des violences et des tensions dans la capitale centrafricaine. Les violences ont fait au moins 36 morts et près de 30 000 déplacés depuis samedi après le meurtre d'un conducteur musulman de mototaxi et forcé la présidente de transition à écourter son séjour à New York où elle assistait à l'Assemblée générale des Nations unies. Les manifestants exigent notamment sa démission alors que les élections présidentielles et législatives devant clore la transition prévue dès octobre vont devoir être une nouvelle fois reportées selon l'AFP.
Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme basée aux États-Unis, a appelé aujourd'hui la République démocratique du Congo à réformer de toute urgence son système judiciaire afin d'assurer des procès équitables pour les crimes graves. Cet appel découle d'un rapport de l'ONG sur le procès Minova, emblématique selon elle des lacunes de la justice congolaise en matière de poursuite des graves crimes internationaux. Pour Human Rights Watch, ces lacunes persistent malgré des années de soutien international.
Minova est une localité de la province du Sud Kivu, théâtre en novembre 2012 pendant 11 jours de viols, meurtres et pillages commis par des soldats des forces armées de la RDC en déroute face à la rébellion du mouvement du 23 mars, finalement défaite en novembre 2013. En mai 2014, une cour militaire spéciale a rendu son verdict sans appel pour les 39 militaires jugés. Sur 25 accusés de viol, seuls 2 ont été reconnus coupables de ce crime. 22 ont été condamnés pour violation des consignes, pillage ou vol de munitions, et un pour meurtre. Aucun des 14 officiers qui avaient été poursuivis pour manquement à leur devoir n'a été condamné.
Bilan macabre des attaques de Boko Haram en 4 mois. Au moins 1600 personnes ont été tuées depuis le début de juin dans les violences attribuées aux groupes islamistes en Afrique de l'Ouest et centrale, selon Amnesty International. Les détails, Eddie Isango.
Le nombre de personnes tuées est vraiment choquant, déclarent les directeurs pour l'Afrique d'Amnesty, Netsanet Beley. Dans un communiqué cité par l'AFP, M. Beley déplore la mort de plus de 3500 victimes civiles en moins de 300 jours, soit depuis le début de l'année. Les violences attribuées à Boko Haram ont causé la mort de 1600 victimes en seulement 3 mois, soit depuis juin. Amnesty International interpelle les gouvernements des pays concernés à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des civils dans les zones affectées. Les décès déplorés ont été enregistrés au Nigeria, mais aussi au Cameroun, au Tchad et au Niger. Pourtant, l'armée nigériane a récemment assuré gagner du terrain dans sa contre-offensive contre les insurgés, affirmant avoir détruit plusieurs de leurs camps et libéré plusieurs centaines de femmes et d'enfants retenus captifs par les groupes. Le président Muhammadu Buhari a donné début août 3 mois à ses forces armées pour venir à bout de l'insurrection.
La lutte contre Boko Haram a été évoquée par le président tchadien Idriss Déby hier aux Nations Unies, nous dit de New York notre envoyé spécial Tatiana Mosso, qui commence son compte-rendu par la question palestinienne.
Vert, blanc, rouge et noir, les couleurs du drapeau de la Palestine flottent désormais devant le siège de l'ONU sous un ciel couvert ici à New York. Une résolution allant dans ce sens a été adoptée par 119 voix pour, 8 contre et 45 abstentions. Les États-Unis et Israël ont voté contre. De leur côté, les Européens y sont allés en ordre dispersé après avoir pourtant cherché à trouver une position commune. L'autre événement de ce jour, une réunion avec les ministres des Affaires étrangères qui a débuté ce matin dans la chambre du Conseil de sécurité de l'ONU. Une fois de plus, le terrorisme et les conflits internationaux étaient au menu, avec spécifiquement la circulation des armes concernant notamment le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a dénoncé une lenteur de la communauté internationale à faire face au terrorisme, faisant notamment référence à la situation que vit son pays et la région du Tchad. Pour John Kerry, le secrétaire d'État américain, ne commettez pas d'erreur, il ne faut pas faire une alliance avec Bachar al-Assad, mais il faut que tout le monde trouve une résolution diplomatique en appelant aussi bien la Chine et la Russie pour appuyer les initiatives de l'ONU pour une coalition massive contre l'État islamique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les premières frappes aériennes russes mercredi en Syrie ont suscité diverses réactions. Les précisions de Michel Joseph.
L'aviation russe a effectué 20 sorties aériennes et touché 8 cibles du groupe État islamique en Syrie, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Toutefois, le chef de l'opposition syrienne en exil, Khaled Roja, a affirmé que 36 civils ont été tués dans une frappe russe. Il a accusé les Russes de soutenir le gouvernement syrien contre la population. De son côté, le chef de la diplomatie syrienne, Walid al-Mualem, que citent les médias d'État de son pays, s'est félicité de l'existence d'un nouveau mécanisme de coordination entre la Syrie, la Russie, l'Iran et l'Irak pour combattre le terrorisme. Le secrétaire d'État américain John Kerry a dit pour sa part que Washington est prêt à accepter l'intervention russe en Syrie à condition qu'elle soit dirigée contre le groupe État islamique et les groupes liés à Al-Qaïda. Toutefois, selon le patron du Pentagone, Ash Carter, les zones visées par les avions russes ne semblaient pas inclure celles où opèrent les militants du groupe État islamique. Carter s'est, par ailleurs, dit déçu que les Russes n'aient pas utilisé les canaux officiels pour aviser les États-Unis au sujet de ces raids.
Ajoutons qu'après une réunion aux Nations Unies avec son homologue russe Sergueï Lavrov, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré hier « Nous sommes tombés d'accord sur la nécessité, aussi tôt que possible, peut-être même demain, c'est-à-dire aujourd'hui, d'avoir des discussions entre militaires pour éviter des risques d'incidents entre leurs aviations ».
En Afghanistan, les forces de sécurité ont reconquis tôt ce matin une bonne partie de Kunduz, prise lundi par les militants talibans dans le nord du pays. C'est à la suite de ce que les autorités ont appelé une opération spéciale et des combats violents pendant la nuit. Démenti du porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, qui dit que les insurgés ont pris plutôt le contrôle de territoires autour de Kunduz pendant la nuit.
Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a dit hier à l'Assemblée générale de l'ONU que les Palestiniens n'étaient plus liés par les accords d'Oslo, conclus en 1993 avec Israël. Et il a demandé à l'ONU de fournir une protection internationale aux Palestiniens. Mahmoud Abbas a accusé Israël de refuser de libérer des prisonniers palestiniens tout en créant de nouvelles implantations juives en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et dans un avertissement très clair, il a laissé entendre qu'il pourrait mettre fin au dialogue avec Israël, mais n'a rien dit sur la coordination entre forces de sécurité palestiniennes et troupes israéliennes en Cisjordanie face à leur ennemi commun, le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi vivement en accusant M. Abbas de tromperie et d'incitation à la destruction au Moyen-Orient. Il a demandé aux leaders palestiniens d'agir de manière responsable et de s'engager sans préalable dans des pourparlers de paix.
Et maintenant, la Minute Écho avec Anastasie Toudiech.
Après l'extension du port autonome d'Abidjan, le groupe de BTP chinois CHEC développera et aménagera le PK24, la nouvelle zone industrielle d'Abidjan. L'accord entre l'État ivoirien et CHEC porte sur 200 hectares et sera signé dans les prochaines semaines pour un montant de 60 milliards de francs CFA d'investissement de la part de CHEC, d'après les autorités du groupe. Le PK24 devrait notamment accueillir la nouvelle brasserie franco-hollandaise Brassivoire, ainsi que des industriels chinois. IPAE, le fonds d'investissement de Jean-Michel Severino, l'ancien président de l'AFD, a acquis 35% du capital d'Enval Laboratoire, PME ivoirienne de 40 employés fondée en 2012 et spécialisée dans les analyses physico-chimiques et microbiologiques. Cette opération devrait notamment permettre de doubler le nombre d'employés de la société. Au Ghana, IPAE est participant minoritaire de PEG Africa, une PME qui distribue des panneaux solaires depuis 2013 et compte 87 employés. Le rapport mondial sur la compétitivité 2015-2016 vient de paraître. La Suisse est pour la 7e fois consécutive le premier pays, devant Singapour et les USA. Les trois premiers pays du top 10 africain sont l'île Maurice, 46e mondial devant l'Afrique du Sud, 49e mondial et le Rwanda, 58e mondial. La Côte d'Ivoire, seul pays francophone du top 10, arrive en 8e place.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Afrobasket 2015 à Yaoundé repousse mercredi pour les dames.
Égypte, Cameroun, Mozambique, Nigeria, Gabon, Angola et Sénégal, Mali, telles sont les affiches ce jeudi des quarts de finale du championnat d'Afrique des nations féminins de basketball. Il se déroule à Yaoundé au Cameroun. Compte rendu de l'envoyé spécial sur place de VOA Afrique, Amdinsi.
Après 5 journées à proprement disputées, on connaît les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la grande messe du basketball continental. Il s'agit du Cameroun, le Mali, le Mozambique, le Gabon, l'Angola, le Nigeria, le Sénégal et l'Égypte. Retenez que le Cameroun est la seule équipe invaincue de cette première phase. Les Lions indomptables ont réalisé un parcours sans faute en balayant tout sur leur passage. Après le premier tour, place au quart de finale. Il faut dire que les amateurs de la balle orange seront gâtés car ils auront droit à des affiches de rêve lors de ces quarts de finale prévus ce jeudi au Palais des Sports de Yaoundé avec le derby de l'Afrique de l'Ouest qui va mettre aux prises le Sénégal et le Mali. L'Égypte ira à l'assaut du Cameroun, le Gabon affrontera l'Angola, le Mozambique fera face au Nigeria. Des rencontres palpitantes en perspective à Médici, Yaoundé, VO Afrique.
La Ligue des Champions, suite de la deuxième journée.
Match serré entre Astana et Galatasaray. Score final, 2-2. La belle victoire du Benfica à Madrid face à l'Atlético, 2-1. Manchester City qui s'impose en déplacement contre Mönchengladbach. À domicile, la Juventus de Turin qui domine le FC Séville, 2-0. Belle victoire à l'extérieur du Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0 chez le Shakhtar Donetsk. À noter le but de l'Ivoirien Aurier pour l'effectif parisien. Malmö a été battu à domicile grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo pour le Real de Madrid, 2-0. Manchester United s'impose 2-1 face à Wolfsburg. Enfin, la victoire du CSKA Moscou, 3-2 contre le PSV Eindhoven.
NBA, les malheurs de Derrick Rose persistent.
Oui, le joueur vedette des Chicago Bulls a été blessé au visage lors du premier entraînement de son équipe. C'était mardi. Il va subir une intervention chirurgicale. Derrick Rose a reçu un coup de coude dans le visage durant l'entraînement. Il a été transporté à l'hôpital où il a été diagnostiqué qu'il souffrait d'une fracture du plancher orbital sur le côté gauche. C'est ce qu'ont annoncé les Bulls dans un communiqué. On rappelle Idrissa qu'il a été élu meilleur joueur de la NBA. C'était en 2011. Il n'a seulement que 26 ans, mais il a vu sa carrière compromise par une série de blessures, notamment à un genou, avec une saison blanche entre 2012 et 2013 et seulement 10 matchs disputés en 2013-2014.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, la nouvelle flambée de violence connue par le pays depuis samedi a fait au moins 36 morts selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Notre envoyé spécial à New York, Tatania Mosso, a rencontré en marge de l'Assemblée générale de l'ONU le chercheur et consultant d'Amnesty International, Jonathan Pedenault, qui revient ici sur la situation, y compris les perspectives électorales en République centrafricaine.
On s'attend maintenant évidemment à un report supplémentaire. La présidente a annoncé que la feuille de route électorale ne tenait plus la route finalement. Évidemment, présentement, la violence qu'on voit actuellement, ce qui nous préoccupe, c'est que la MINUSCA, qui est présente sur le terrain, n'a pas su rapidement gérer la situation. Les forces françaises ont dû intervenir à de nombreuses reprises, soit en appui à la MINUSCA ou même en remplacement de la MINUSCA à certains moments, selon les informations qu'on a pu obtenir. Donc ça, c'est véritablement ce qui nous préoccupe pour l'instant, parce qu'on a une forte présence des forces internationales en Centrafrique, et malgré ça, on se retrouve néanmoins avec un bilan là, qui frôle les 50 morts, des centaines de blessés, des bureaux d'humanitaire d'organisations internationales qui sont pillés. Donc c'est extrêmement préoccupant pour nous.
À l'occasion de cette 70e Assemblée générale de l'ONU, une réunion spéciale sur la République centrafricaine doit se tenir. Regrettez-vous que des ONG comme la vôtre n'y soient pas conviées?
Il est certain que les ONG ont une place à prendre hein, au sein des concernant donc, l'Assemblée générale. Concernant la Centrafrique plus spécifiquement, eh bien souvent les ONG hein, ont de meilleurs accès aux informations. Ils sont souvent plus proches des populations civiles. Il est évident que dans des forums comme celui-ci, donc concernant la Centrafrique, il aurait évidemment été bien que les ONG aient leur place et aient leur mot à dire dans les décisions. Après, il y a énormément de rapports qui sont produits par ces organisations, des organisations telles que la nôtre. Je pense que ces rapports sont assez bien distribués. Je pense que les délégués sont au courant de nos demandes en espérant que nos observations se rendent aux bonnes personnes.
Enfin, un dernier mot sur ce rapport d'Amnesty International qui vient de sortir. C'est un rapport sur le diamant centrafricain. Qu'est-ce que votre rapport apporte de nouveau par rapport à ce qui a déjà été publié ces dernières années?
Alors, cette enquête qui a été menée, qui a été une enquête très large, qui s'est déroulée en Belgique, aux Émirats arabes unis, au Cameroun et en Centrafrique, démontre qu'encore aujourd'hui, les diamants centrafricains amènent des bénéfices en fait aux groupes armés qui parviennent à trafiquer ce diamant à l'extérieur de la République centrafricaine et parfois à l'exporter à l'intérieur même du processus de Kimberley qui, on se le rappellera, est supposé évaluer l'origine de ces diamants, s'assurer que ces diamants ne constituent pas des diamants de sang. On s'est aperçu donc avec ce rapport qu'il peut être arrivé à certains moments que des diamants centrafricains aient été exportés avec de faux certificats du processus de Kimberley en passant à travers le Congo ou le Cameroun. Et donc évidemment, c'est extrêmement préoccupant parce que ces diamants continuent à financer les activités de ces groupes armés qui commettent les violences qu'on voit aujourd'hui à Bangui et dans le reste de la Centrafrique.
Le chercheur et consultant d'Amnesty International, Jonathan Pedenault.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur l'Assemblée générale de l'ONU à New York, à l'heure où les crises se répètent en Afrique, notamment en Centrafrique et au Burkina Faso. Une assemblée qui a accueilli le pape François en marge de son périple américain. Cette assemblée de l'ONU sera-t-elle encore une fois beaucoup de discours et peu de décisions, comme le disent certains? Et que pensez-vous aussi de la récente visite du pape aux États-Unis? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU, en direct de New York.
Le Bénin s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire avec les élections présidentielles du 28 février prochain. Un nombre impressionnant de candidatures ont été enregistrées et cela inquiète la société civile. De Cotonou, les explications de notre correspondante Ginette Fleur-Adondé.
Encore quelques mois et les Béninois iront voter pour choisir le prochain président de la République. Mais déjà, des intentions de candidature se font connaître et certains, sans se prononcer encore, sont sollicités de part et d'autre comme étant les seuls capables de sortir le Bénin de l'obscurité du développement, du bourbier infernal, des grèves perlées, du chômage et de la légèreté du panier de la ménagère. Mais les acteurs de la société civile ne comprennent pas pourquoi, pour une démocratie aussi jeune et pour un pays si petit qu'on ait déjà plus d'une cinquantaine de candidatures. Et à l'allure où vont les choses, les Béninois pourraient se réveiller au matin des campagnes électorales avec une centaine de candidats prêts à briguer la magistrature suprême. Beaucoup de candidats pour quelle qualité en termes de débat politique? C'est la crainte de certains.
Cette multitude de candidatures devrait permettre qu'on ouvre les vrais débats de la nation, les vrais débats du développement.
Le Bénin veut des gens qui doivent vraiment apporter un plus au Bénin et non ceux qui vont venir encore toucher au minimum, au peu qui reste là. Non.
Plusieurs candidats pour un seul fauteuil présidentiel. Pour le Béninois lambda, les candidats ont intérêt à avoir un projet de société qui prend en compte les réalités des populations et qui s'inscrit dans la continuité.
C'est vrai que beaucoup de chantiers ont été ouverts. Il ne s'agit pas de venir dire on jette tout ça à l'eau et on recommence. Il faut que ce soit un président qui ait ce souci-là. Parce que diriger un pays, ce n'est pas une affaire de 5 ans, ce n'est pas une affaire de 10 ans.
La jeunesse, pendant les périodes électorales, reste la frange de la population la plus manipulée. Selon certains, elle doit se réveiller et jouer son rôle de gardien des valeurs démocratiques pour une relève de qualité.
Aujourd'hui, quand vous allez vers la jeunesse ou quand vous rencontrez les jeunes et que vous leur parlez, ils veulent savoir, mais le monsieur dont vous parlez, il a l'argent. Le monsieur dont vous parlez, il y a combien d'opérateurs économiques derrière lui? Le monsieur dont vous parlez, qu'est-ce qu'il peut me faire tout de suite? Et quand vous convoquez les réunions sans payer le déplacement, soyez convaincus qu'à la prochaine, vous ne verrez plus personne.
Et c'est ça qui est malheureux. Moi, j'invite toute la jeunesse à se dire, 2016 ne nourrira aucun jeune. Le jeune doit se mettre au travail.
Au soir du 28 février prochain, les Béninois seront situés sur le probable successeur de Thomas Boniayi. Mais en attendant, la classe politique béninoise doit faire une toilette assidue en son sein pour dégager des candidats nantis d'une certaine potentialité pour diriger le pays. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, plus d'un millier de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont obtenu réparation dans le cadre d'un processus d'indemnisation débuté il y a 2 mois. Jean-Roger Bion a joint Mariatou Koné, directrice générale du Programme national de cohésion sociale en charge de l'indemnisation des victimes.
Au titre de l'indemnisation, nous avons commencé avec 4500 personnes et aujourd'hui, l'indemnisation, je dirais, se porte bien parce que près du tiers des victimes a reçu réparation.
Est-ce qu'on peut évaluer ce qui a été donné à ces gens qui ont subi les effets de la guerre?
Grosso modo, il y a plusieurs types de préjudices, mais nous avons commencé par les décès, c'est-à-dire atteinte à la vie, et puis atteinte à l'intégrité physique, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont subi des blessures physiques et morales. Pour les personnes qui ont perdu la vie, ayant droit reçoit 1 million de francs CFA par personne décédée. Et puis pour les personnes blessées, c'est la prise en charge médicale et psychologique totale et intégrale jusqu'à guérir.
Alors il y avait 2 camps opposés lors de la crise post-électorale. Est-ce que tous les camps ont été pris en compte, madame?
Nous faisons les réparations sans tenir compte de camps. La mort n'a pas de couleur, la victime n'a pas de couleur. Qu'on soit de tel bord politique ou de tel autre bord politique, les victimes ne sont pas répertoriées en fonction de leur bord politique, mais en fonction des cas de décès, en fonction des cas de blessures, en fonction des cas de pillage, etc. etc. Et donc, toutes les personnes qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire, civiles comme militaires, leurs ayants droit reçoivent réparation, sans tenir compte de la religion, ni du parti politique, ni de l'appartenance ethnique.
Alors, jusqu'à quelle période cette indemnisation va s'étendre?
Le processus de réparation a commencé, il va continuer jusqu'à ce que toutes les victimes reçoivent réparation sur le territoire national et même au-delà s'il y en a qui sont à l'extérieur.
Pensez-vous que cette opération va contribuer à l'apaisement à 1 mois de l'élection présidentielle?
Fortement contribuer à l'apaisement et ça a déjà commencé parce que des gens qui n'avaient aucun soutien qui voient maintenant qu'ils sont regardés, l'expression en Afrique, regardés, on me regarde, regardés par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent compassion de l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau, c'est-à-dire par le président. Ils reçoivent compassion également de toute la nation. Je pense que ça soulage les douleurs. Et aujourd'hui, il y a un engouement autour du processus de réparation des préjudices dus aux victimes qui fait que nous ne pouvons que saluer l'opération et nous espérons que ceux qui étaient encore réticents, qui avaient lancé des mots d'ordre demandant aux gens de ne pas s'inscrire, que ces personnes-là comprennent qu'il faut que tout le monde s'inscrive. mourir pour bénéficier du fonds spécial d'indemnisation pour les victimes, parce que ça ne tient pas compte de camp, ça ne tient pas compte de couleur, ça ne tient pas compte de religion, ça ne tient pas compte de parti politique.
Mariatou Kone, directrice générale du programme ivoirien de cohésion sociale, était jointe à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
En République démocratique du Congo, la démission du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, du parti au pouvoir, suscite encore des commentaires, bien que le PPRD, parti du président Joseph Kabila, parle d'un non-événement. Pour une réaction, Eddy Sango a joint le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kiyungu wa Kumwanza.
À partir du moment où certains commencent même à penser à tripatrier, à revoir la Constitution, là, ça nous inquiète. D'abord, je lui rends hommage en tant que membre du G7. Je lui rends un vibrant hommage parce qu'il a démontré combien il est un homme de parole, un homme sérieux. Deuxièmement, effectivement, il a constaté que dans les camps de la majorité, il n'y a pas l'honnêteté. Une sorte de malice, mensonge et hypocrisie. Voilà pourquoi il a trouvé que ce n'était pas un milieu où il pouvait rester.
Monsieur Moïse est resté ambigu quant à une probable candidature à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que c'est pour se présenter ou pour confirmer une candidature à l'élection présidentielle?
Non, pas nécessairement. Concrètement, nous voulons dire au niveau du G7, que jamais la majorité ne s'est prononcée pour l'alternance, c'est-à-dire le changement des hommes qui sont en place, remplacés par les autres et par le système électoral. Par contre, il se trouve des hommes divins, des hommes providentiels.
Vous accusez les autres membres du pouvoir d'entretenir un flou quant aux élections. Est-ce que ce n'est pas le cas avec vous? Quelle est votre position par rapport à ces élections? Est-ce que vous ne vous positionnez pas vous-même déjà pour être candidat? Quand je dis vous-même, c'est-à-dire est-ce que vous avez un candidat pour le G7 à la prochaine élection?
Je pouvais avoir l'idée d'avoir un candidat, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est le respect de ce que notre constitution que nous avons nous-mêmes adoptée tous, c'est ça. Et nous voulons qu'on respecte cette constitution, qu'on accepte qu'il y ait l'alternance politique. Ce n'est pas parce que nous avons un candidat à présenter, encore que c'est notre droit, mais ce que nous voulons est que les règles du jeu soient respectées.
C'était Gabriel Kiyungu wa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga en République démocratique du Congo.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Une semaine après la bousculade à Mina, l'Arabie Saoudite n'a toujours pas communiqué la nationalité des centaines de victimes. Est-il facile d'identifier plus de 700 morts entassés dans des morts ou des camions frigorifiques? Idriss Fall a joint sur place à Mina le ministre malien du culte, Tierno Ass Diallo.
C'est ce à quoi je me suis rendu compte à mon arrivée, parce que quelque part, notamment chez nous au Mali, tellement de messages et d'informations fuisaient négativement. Alors, on pensait que c'était quelque chose de très simple, de très pratique. Mais une fois ici, alors je vous dis franchement, je me suis rendu compte, parce que la difficulté s'explique, parce que personne ne s'attendait à cette tragédie.
Mais comment ça se passe?
Alors, ça se passe d'abord au regard du bilan, qui est quand même très macabre, hein, très stupéfiant. Alors, vous avez les corps qui sont photographiés, souvent invisibles, illisibles, indescriptibles, qui passent sur des petites photos accrochées. À peu près, ça sort en lot de 300 ou 500. C'est l'ensemble donc des pays étant présents qui ont perdu des ressortissants. Et vous venez vous les attroupés autour de ces images avec près de 200-300 personnes pour les regarder, quelques indices rappelant, parce que tous les indices de brassard tout est parti, des corps brûlés, se tirent à piétiner, le mouvement de foule. Dès que vous identifiez, il faudrait passer à une autre étape pour aller constater est-ce que le numéro qui était avec cette photo qui ressemble à une de vos victimes, si cela est vrai, qu'on regarde, ensuite vous rendez à la morgue.
Et ça prend combien de temps pour identifier un corps alors?
Objectivement, pour identifier un corps, vous n'avez pas moins de 8 heures. Au regard d'une journée de 8 heures, donc c'est une journée. Ça se complique parce que soit au bout de la chair, vous vous rendez compte que le corps identifié n'était pas votre victime. Alors c'est là aussi que ça peut se poser. Et vous imaginez combien de victimes, combien de camions réfrigérateurs à remplir parce que toutes les morgues sont débordées.
Tierno Asdiallo, ministre malien du culte, voilà c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Anne Albertson.